journal Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Quel sort le Sénat réservera-t-il à la taxe Zucman? La Chambre haute se prononce aujourd'hui sur un impôt plancher pour les très gros patrimoines. Le gouvernement y est toujours défavorable. Israël devrait expulser dans les toutes prochaines heures les militants français pour Gaza encore retenus dans le pays. L'eurodéputée Rima Hassan, placée brièvement à l'isolement, vous entendrez son avocate. Dans l'actualité aussi, cette minute de silence dans les établissements scolaires aujourd'hui après le drame de Nogent. L'intelligence artificielle au service de la santé.
Une start-up française mise sur l'IA pour mieux détecter les cancers de la peau. Reportage grand format.
Et puis l'hommage à Brian Wilson, le génie des Beach Boys, nous a quittés hier soir.
France Inter. 2% d'impôt minimum pour les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros.
C'est le principe de la taxe Zucman. Face à un constat, en proportion, les ultra-riches contribuent aujourd'hui moins que les autres. Une proposition de loi a repris l'idée il y a quelques mois. L'Assemblée l'a adoptée en février contre l'avis du gouvernement. Et c'est donc au tour du Sénat de l'examiner aujourd'hui. La Chambre haute, où elle a beaucoup moins de chances de passer compte tenu des rapports de force politique. Mais voilà le débat relancé, Claire Chaudière, alors que l'exécutif cherche toujours 40 milliards pour réduire le déficit.
Entre 15 et 25 milliards d'euros rentreraient dans les caisses grâce à ce dispositif qui est tout sauf le retour de l'ISF, assurent les défenseurs de cette mesure. Seuls 1800 foyers fiscaux seraient touchés. D'ailleurs, les ultra-riches concernés ne payaient pas d'ISF pour la plupart, puisqu'ils ont l'habitude, explique-t-il, de réinjecter leurs dividendes dans des holdings. Avec cet impôt plancher de 2%, Bernard Arnault, 150 milliards de patrimoine, s'acquitterait de 3 milliards d'euros à lui seul. Ça peut paraître beaucoup, mais sa fortune devrait continuer d'augmenter et plus vite que la moyenne, relativise l'économiste Gabriel Zucman, soutenu désormais par l'artisan du programme économique d'Emmanuel Macron en 2017, Jean Pisani-Ferry. Mais la droite et une partie du centre de l'échiquier politique dénoncent toujours une proposition dangereuse, s'inquiètent d'un risque d'exil fiscal. Le gouvernement s'y oppose aussi, rappelle qu'un mécanisme de lutte contre la suroptimisation fiscale est en cours d'élaboration par les services de Bercy, tout en refusant pour le moment d'en dévoiler les contours.
Claire Chaudière, et pour le budget 2026, l'effort doit être juste, fourni par tous, à commencer par les plus favorisés. C'est le gouverneur de la Banque de France qui le dit. François Villeroy de Galhau dévoile ce matin une prévision de croissance revue à la baisse pour 2025. Seulement 0,6% anticipé, alors que l'organisme prévoyait encore 0,9% en début d'année. L'incertitude liée à la guerre commerciale américaine va bien peser sur les économie française.
Au Proche-Orient, la Fondation humanitaire de Gaza dit avoir été visée par le Hamas.
Cette ONG soutenue par les États-Unis et Israël affirme qu'au moins 5 de ses employés palestiniens ont été tués cette nuit dans une attaque perpétrée par l'organisation islamiste. Hier, la défense civile gazaoui a de son côté accusé l'armée israélienne d'avoir à nouveau ouvert le feu sur des gazaouis allant chercher de l'aide humanitaire. 31 morts recensés par les secours. Quant aux 4 militants français pro-palestiniens encore retenus en Israël, ils doivent être expulsés aujourd'hui ou demain, parmi eux, l'eurodéputé LFI Rima Hassan, placée une dizaine d'heures à l'isolement hier, selon son avocate Adèle Aoussali. Elle a eu des nouvelles de sa cliente par téléphone.
Jusqu'à mercredi matin, elle était à Ramla, dans le centre de rétention de Givon. Je devais l'y rencontrer, mais j'ai appris qu'elle avait été placée à l'isolement dans la prison pour femmes de Neve Tirza, parce qu'elle avait écrit Free Palestine sur le mur de sa cellule. J'ai pu m'entretenir avec elle en prison, puis elle a été transférée de nouveau vers le centre de rétention. Physiquement et mentalement, elle va bien. Elle est forte et reste déterminée à faire passer le message qu'elle est venue délivrer. D'après les dernières informations dont je dispose, elle devrait être expulsée tout à l'heure. Mais elle est clairement dans le collimateur des autorités israéliennes parce que c'est une élue, mais aussi parce qu'elle est palestinienne.
L'avocate de Rima Hassan avec Thibault Lefebvre. Et en France, selon les informations de nos confrères de France Info, la Ligue des droits de l'homme porte plainte contre l'entreprise Eurolinks pour complicité de crimes de guerre, de génocide et contre l'humanité. La société marseillaise est soupçonnée de livrer à Israël des pièces détachées de mitrailleuses. Et pour la LDH, aucun doute, ces armes ont servi contre la population de Gaza. Mais au gouvernement, le ministre des Armées persiste et signe. La France ne vend pas d'armes à Israël. Et pour tenter de le prouver, Sébastien Lecornu déclare classifie un document qui, selon lui, montre que Paris n'a livré à l'État hébreu que du matériel défensif ou destiné à la réexportation.
France Inter 6h04, ce sera à midi dans toutes les écoles, collèges et lycées de France.
Une minute de silence en hommage à Mélanie, la surveillante du collège de Nogent en Haute-Marne, mortellement poignardée par un élève avant-hier. Les cours doivent reprendre ce matin dans l'établissement malgré le choc. La sidération face au portrait glaçant du jeune suspect dressé hier par le procureur. En garde à vue, l'adolescent n'a manifesté aucun regret ni compassion pour la victime. Il a dit vouloir tuer une surveillante, n'importe laquelle, et ne semble pas attaché, je cite, de valeur à la vie humaine. Et hasard du calendrier, le gouvernement dévoile ce matin son plan santé mentale, grande cause nationale 2025. Et non, ce n'est pas qu'un slogan, assure le ministre de la Santé, Yannick Noeder, en annonçant les principales mesures. Formation des personnels de santé scolaire au repérage précoce des troubles psychiques, du soutien financier aux centres médico-psychologiques, la relance de l'attractivité de la filière psychiatrie dans les facs de médecine. Mais avec quel argent ? Yannick Noeder n'annonce pas de moyens supplémentaires. Il nous en dira plus à 7h50 puisqu'il sera l'invité d'Inter. De l'argent, les élus locaux en réclament aussi à l'État pour financer la rénovation des quartiers dans le contexte budgétaire très tendu qu'on évoquait tout à l'heure. Ils sont venus l'exprimer hier soir lors d'un rendez-vous avec l'ANRU, l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine. Nicolas Pagès y était aussi pour Inter.
Au pupitre, ce sont presque ses premiers mots.
On est sans doute à un moment charnière de l'histoire de l'ANRU, un moment qui va compter.
Les mots d'ouverture de Patrice Vergritte, président de l'ANRU, témoignent de l'inquiétude autour de l'avenir de cette agence vieille de 20 ans. Un certain nombre des investissements prévus pour 2025 ne sont toujours pas financés, de quoi susciter la colère du maire de Villeurbanne, Cédric Van Stiefendel.
L'État doit payer ses dettes, point barre, c'est pas compliqué, l'État doit payer ses dettes. Il faut qu'il affecte 250 millions de crédits de paiement avant la fin de l'année pour être sûr qu'on fasse les projets, sinon il y a des projets qui vont s'arrêter, c'est un risque majeur.
Alors pour rassurer les élus, la ministre déléguée à la ville, Juliette Méadel, avait fait le déplacement.
L'avenir de l'ANRU, c'est précisément qu'on réfléchisse à un nouveau programme national de renouvellement urbain à partir de 2030.
Mais sous la menace d'arbitrage budgétaire imminent, la ministre reste floue sur la question du financement.
À ce stade, je vous dis ce que je souhaite, mais évidemment que la question du financement est posée et qu'il va falloir concevoir un nouveau modèle de financement.
La semaine dernière à Montpellier, François Bayrou a réuni ministres et élus locaux pour justement mettre la question des quartiers prioritaires de la ville au cœur du débat.
Aux États-Unis, les manifestations contre la politique migratoire de Trump font tache d'huile sans être pour autant massives. Des rassemblements cette nuit à New York, Seattle, Las Vegas. Alors qu'à Los Angeles, là d'où tout est parti, le calme, le couvre-feu décrété par la maire a un peu fait redescendre la tension. Le gouverneur démocrate de Californie, bête noire du président, va tenter aujourd'hui de faire annuler en justice la mobilisation de la garde nationale. Une troisième nuit de tension en Irlande du Nord où depuis lundi, des manifestants violents cible la communauté roumaine après l'arrestation de deux adolescents qui en seraient issus pour une tentative de viol. Hier soir, ils étaient encore des centaines à affronter la police dans les rues de Ballymena, petite ville de 30 000 habitants. Un centre de loisirs a aussi été incendié dans une commune voisine. Mais le niveau de ces violences que les autorités qualifient clairement de racistes a baissé par rapport aux deux nuits précédentes.
Paris, capitale de l'intelligence artificielle jusqu'à ce week-end.
Oui, au salon VivaTech, plus grand événement européen du secteur, des nouvelles technologies, de l'IA partout, dans les allées notamment, en matière de santé. Avec cette start-up implantée en Dordogne, SkinMed développe une solution pour faciliter la détection des cancers de la peau.
C'est le reportage grand format d'Adrien Serrière.
Elle attendait depuis plus de 7 mois un rendez-vous chez un dermatologue.
C'est très compliqué, c'est très lent les délais.
C'est finalement dans une pharmacie près de chez elle, à Aigli, dans l'Essonne, que Sheila est venue consulter.
J'ai un crème beauté, j'ai pris hier, j'ai eu rendez-vous aujourd'hui.
Vous êtes inquiète pour ce grain de beauté ?
Oh oui.
Vous l'avez jamais fait
non.
Voir ?
Non.
Donc, hop, le téléphone pour faire la photo du grain de beauté.
SkinMed loue à cette pharmacie un dermoscope, sorte de grosse loupe professionnelle.
Et voilà.
Pierre-Julien Pitiou, le pharmacien.
On va faire une première prise de vue générale et après on va se rapprocher pour faire une prise de vue beaucoup plus proche. Ça, on voit tout de suite les photos qu'on a prises.
En quelques secondes, une intelligence artificielle analyse ces photos et donne un avis. Mais la patiente devra attendre 2 à 3 jours pour avoir une réponse, le temps qu'un dermatologue comme le docteur Anne-Marie Fertile contrôle l'ensemble du dossier avec un code couleur.
Vert, pas de problème, tout va bien. Jaune, à surveiller. Orange, nécessite une consultation. Et rouge, c'est urgentissime, il faut absolument que vous soyez vu en urgence. Sur 100 patients que j'expertise, il y en a deux, trois qui nécessitent de manière urgente une prise en charge. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas pris en charge, ils peuvent en mourir. Et on a à peu près 20% de dossiers orange, ce qui fait quand même un rendement extrêmement fort.
Avec ce diagnostic rapide, SkinMed veut désengorger les consultations des dermatologues. La fondatrice de l'entreprise Jennifer Gauthier compte profiter de Vivatech pour accélérer son déploiement.
C'est une superbe opportunité de se faire connaître à l'international. Et c'est ce qu'on attend en fait de Vivatech, pouvoir présenter notre technologie et faire des rencontres également.
Pour l'instant, l'entreprise n'est présente qu'en France où elle s'appuie sur un réseau de 500 pharmacies.
Grand format d'Adrien Serrière.
Les hommages se multiplient parmi les artistes après la mort de Brian Wilson.
Pour Nancy Sinatra, sa musique vivra pour toujours. « Mon monde est en deuil », écrit de son côté Ronnie Wood des Rolling Stones. En évoquant la disparition du cofondateur des Beach Boys, il s'est éteint hier soir à 82 ans. Et c'est un génie de la pop qui nous quitte, à la fois chanteur, bassiste, producteur, compositeur, tout au long d'une carrière et d'une vie accidentée, Mathieu Culeron.
Né en 1942 à Inglewood en Californie, Brian Wilson est l'aîné d'une fratrie composée de Dennis et Carl, avec qui il fondera les Beach Boys. Pour lui, la musique devient vite un refuge pour échapper à un père qu'il décrit comme cruel et méchant. Vers 7 ans, on détecte chez Brian des capacités hors normes. À l'église, le directeur de la chorale affirme qu'il a l'oreille absolue. Vers 12 ans, autodidacte, il se met au piano de façon obsessionnelle pendant des heures juste après l'école. Le premier album, Surfing Safari, est un coup d'essai, mais en 1963, Surfing USA connaît un immense succès. Trois ans plus tard, la Beatlemania ravage l'Amérique et Brian Wilson est fou de jalousie. C'est alors que va débuter le plus grand combat de génie de l'histoire de la pop, avec Paul McCartney notamment. I Get Around des Beach Boys devient numéro 1 aux États-Unis, un peu comme une réponse au Fab Four. Brian Wilson commence ensuite à sentir une grande détresse psychologique. L'abus de drogue va aggraver son état, mais c'est aussi à cette période que Wilson va composer ce que beaucoup considèrent comme le chef-d'œuvre de la pop mondiale, Pet Sounds. Avec comme point d'orgue le titre God Only Knows, bijou ultime qui fera de Wilson un roi de la composition. I may not always love you. Il enchaîne en 1966 avec Good Vibrations, un single qui lui aussi est fondateur et inoubliable. Génie torturé, prince de l'harmonie, Brian Wilson rentre au panthéon des stars du genre, admiré et adulé comme un dieu de la pop.
Les tubes des Beach Boys qui sont encore écoutés, Mathilde, par 12 millions de fans chaque mois sur Spotify.
Alexis Morel, des Good Vibrations, il y en a plein dans ce studio avec Laetitia Gaillet et Claude Eskolovitch. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Claude, pour la revue de presse.
Une incroyable épave qui est au large de Ramatuelle par plus de 2500 mètres de fond. Aucune épave en France n'est aussi profonde. C'est raconté par Nice Matin et Var Matin, par moi un peu tout à l'heure, mais moins bien qu'eux.
Laetitia, on est encore en Seine-Maritime avec vous pour Regarde la France.
Je vous propose une immersion sonore dans l'univers maritime du Havre grâce à Méline, étudiante, dont l'œuvre a été sélectionnée pour le festival Un été au Havre.
Et à 6h20, l'invité du 5-7 est Filippo Grandi, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Le HCR publie ce matin son rapport annuel. Il n'y a jamais eu autant de personnes déplacées dans le monde à cause des guerres.
Chez Optical Center, renouvelez vos lunettes tous les ans sans aucun reste à charge. On a tous une bonne raison de ne pas changer de lunettes, que ce soit parce qu'on ne trouve pas de rendez-vous, qu'on voit encore bien avec les anciennes ou parce que c'est trop cher. Pourtant, si votre correction a changé, vous pouvez renouveler vos lunettes chaque année sans aucun reste à charge chez Optical Center. Bénéficiez sans attendre d'un examen de la vue 100% pris en charge et choisissez vos nouvelles lunettes. Optical Center, voir le beau, entendre le bien. Dispositif médical, conditions en magasin, valable jusqu'au 31 décembre.
Et si chaque voyage devenait extraordinaire ?
DS Automobile présente
le Week-end DS Collection Jules Verne. Du vendredi 13 au dimanche 15 juin, embarquez dans un univers avant-gardiste à bord de DS7 Collection Jules Verne. Profitez de ces technologies de pointe comme la conduite semi-autonome DS Drive Assist et succombez à ses finitions haut de gamme. Prenez rendez-vous en DS Store sur dsautomobile.fr.
DS Automobile.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Voici Esprit Sport à 6h13.
France Inter. Le 5-7.
Plus de 350 000 personnes attendues ce week-end aux 24 heures du Mans. C'est la 93e édition de cette si prestigieuse course automobile. Parmi les grands fans de l'épreuve, Jean-Louis, ce septuagénaire originaire du Doubs, fait le trajet tous les ans depuis 20 ans pour s'installer au camping de Beauséjour qui est situé près du circuit.
C'est l'amour du sport automobile par lui-même, c'est tout. Après, le reste, bon, la convivialité, les rencontres qu'on fait qui sont internationales là au travers. Donc ça se fait au ça se fait automatiquement. Des fois, l'année d'après, on se retrouve, donc c'est pas systématique. Mais bon, non, mais c'est une ambiance. C'est vrai que Le Mans, c'est la messe. C'est la messe du sport automobile, c'est la grand-messe. On vient en pèlerinage au Mans comme si on allait à Lourdes. Pourquoi on voit autant de monde? C'est parce qu'il y a une passion. Le 20, c'est les 24 heures du Mans. On ne retrouve pas ça ailleurs. À l'hôtel, ouais, c'est une ambiance. À l'hôtel, on n'a pas cette ambiance-là. Bah, on peut trop rencontrer des gens aussi, mais c'est quand même pas pareil. Puis là, on est sur place. Hein, là, on va prendre les trams, on va prendre soit le vélo, et puis on va partir aux abords du circuit qui va nous permettre de pouvoir entrer et puis d'y aller, de faire le reste à pied. Hein. On fait des kilomètres, hein, parce qu'entre Tertre-Rouge et puis revenir, par exemple, vers le virage Porsche, ça fait des kilomètres. Hein. Si on est là, c'est parce qu'on aime. Sinon, on ne vient pas. Il y en a qui font du football. Moi, je déteste le football. Donc, le sport automobile, pour moi, c'est le Graal. Pour moi, c'est tant qu'on pourra, on viendra. Moi, j'ai 78 balais. Ah ouais, non, mais on a la patate, on a la forme. Tant que je pourrais venir, bah, je viendrai.
Esprit Sport, spécial 24 heures du Mans, une série réalisée par Cédric Guillou. Et nous reparlerons de cette course dans une demi-heure avec Raphaël Gerson qui a décidé de la décarboner. Il est 6h15, la revue de presse. Claude Eskolovitch, revue des unes d'abord.
Oui, la une de la Croix, on voit un homme qui est surchargé. Il a un blouson, il porte un manteau. Il a une espèce de couverture ou de matelas, je ne sais pas, sur le dos. Il tient une bouteille à la main. C'est sur fond de paysage très sec, très chaud. Il hurle cet homme, titre de la Croix. Tunisie, les migrants pris au piège, ça parle de gens, les migrants subsahariens dont dans ce pays, la Tunisie, on ne veut pas. À la une de l'Humanité, des gens qui ont l'air bien ravis de vivre, ils sont heureux, ils sourient, ah bah ouais, ce sont des milliardaires. Une de l'Humanité, assez rigolo, ça parle de la taxe Zucman, vous savez, la taxe dont on va débattre sur les super-riches, et dont les milliardaires a ruisselé, pas mal, la une confrère, la dépêche est plus sobre, et si on taxait enfin les ultra-riches. À côté de cela, les Échos et l'Opinion nous parlent du conclave sur les retraites vers un compromis, dit les Échos. Le compromis, c'est que la CFDT ne met plus comme condition prérequise un accord l'abandon de la retraite à 64 ans. Fini l'hypocrisie. Voilà, le réalisme s'impose, dit l'Opinion. C'est l'idéologie aussi, un journal où ce sont des opinions fortes. Allez, un garçon qui ne connaîtra jamais l'âge de la retraite, il s'appelait Jules, il avait 21 ans. Il est mort au travail, happé dans une usine Paprec, c'est du recyclage, par une machine. Il y a un procès aujourd'hui. C'est la Une de Midi Libre, édition de Nîmes. Une de Libération, vous verrez la fragilité, la douceur du regard de Brian Wilson. Dernier Smile, c'était un album mythique. Bon, plein de mythes autour de Brian Wilson, mais écoutez, lisez les papiers, il était tellement fragile cet homme. De la fragilité aussi dans les yeux de Luis Enrique, à la Une de l'Équipe encore, quelque chose de fêlé dans cet homme, très intéressant. Allez, j'en termine avec les yeux, même à 350 km/h, les pilotes ont l'œil, ça c'est la Une du Maine Libre, ça parle des pilotes des 24 heures du Mans.
Et dans votre choix, Claude, une encre avec un A, pas un E.
Absolument, une encre géante qu'on appelait en son temps, au XVIe siècle, une encre de miséricorde, car c'était alors la sauvegarde des navires. Mais celle-ci repose, car elle n'a pas sauvé son bateau, à plus de 2500 mètres de fond, au large de Ramatuelle. De Ramatuelle, c'est un des trésors, un des mystères d'une épave qui fait la une et la passion de Nice et de Varmatin. L'épave d'un navire de commerce italien qui sans doute s'est couché venant de Ligurie il y a 5 siècles. Dans son naufrage, les éléments du fond de cale se sont mélangés avec ceux des parties supérieures. Et c'est un puzzle, une longue enquête archéologique qui prendra des années, à laquelle nous invitent nos journaux. L'épave a été découverte en mars par un sonar de la Marine Nationale. On lui a envoyé un drone sous-marin pour la filmer, car elle est si loin de nous, aucune épave n'est plus profonde en France, que l'homme ne peut pas s'y rendre. Alors hier, on a dévoilé quelques images, quelques premiers secrets. Une cargaison de pichets ronds globulaires finement peints, à bec pincé, des pierres qui lestaient le navire, des canons qui le protégeaient. Oui, il y en aura des choses à apprendre de ce navire qu'on a baptisé Camara 4, resté inviolé dans le monde de silence. Enfin, inviolé, c'est à voir, car sur les images, on a trouvé aussi des canettes de bière, des boîtes de conserve, un gant, une cagette de plastique, un coussin, une paire de menottes, nos déchets tombés à l'eau qui ont glissé au plus profond et aussi qui voisinent, dialoguent peut-être avec les pichets de nos ancêtres. Que comprennent-ils les vénérables objets aux vandales que nous sommes devenus?
Claude Eskolovitch, 6h18, dernier jour en Seine-Maritime pour Regarde la France. Et ce matin, une jeune artiste, Laetitia Gaillet.
Méline Grelier, je suis étudiante en 4e année à l'école d'art du Havre. Et dans le cadre du festival Un été au Havre, je vais produire une œuvre au 17e étage de la tour de l'hôtel de ville. Et j'ai 24 ans.
Être exposée pour la première fois, ça fait quoi ?
Un petit peu de surprise et de la fierté de se dire que je suis arrivée en septembre à l'école ici et qu'en janvier, on me dit en juin, tu vas être exposée, on a choisi ton projet. Ouais, c'est un peu de fierté quand même.
Être artiste.
C'est là où je me sens le mieux. Il y a un peu une nécessité et de s'y plonger corps et âme dedans, au-delà de juste un travail. Je pense que ça anime et ça habite aussi personnellement.
Mais
j'ai toujours du mal, je pense, là, vu que je suis toujours aussi en études, mais même de manière générale, à me dire je suis artiste. Oui, dans les faits, je produis des œuvres artistiques, mais moi, j'ai du mal à m'attribuer cette profession-là.
Alors, il faudra y aller en douceur et laisser Méline parler de son œuvre qui va être exposée cet été. Le marégraphe.
J'ai enregistré des sons au niveau de la plage du Havre, au niveau du port. Et à partir de ces sons-là, j'ai créé des pistes sonores qui vont se retrouver dans un logiciel qui va faire que ça va créer en temps réel, en fonction des marées, une piste sonore évolutive.
Et la musique qu'on entend, c'est vous aussi?
Là, en fond, oui, en fait, c'était le tout début du son d'un klaxon de bateau de croisière qui partait du port du Havre.
C'est hyper planant.
Oui, j'avais envie d'apporter aussi cet aspect-là. Et le fait que ce soit le deuxième plus grand port d'Europe, j'avais envie qu'on y porte de l'attention un peu autrement que juste visuellement. On se plonge un peu dans tout cet univers-là et dans ces sons qui, finalement, sont juste à côté de nous, dans notre ville. Je me suis dit que faire un projet poétique qui parle de l'environnement du Havre, finalement, c'était une bonne manière pour les gens de la ville et aussi ceux qui la découvrent d'avoir une approche différente de tout cet espace maritime.
Qu'est-ce que vous, artistiquement, vous avez envie d'amener au fil du temps ?
J'ai pas forcément une idée précise, mais moi, ce que j'aime dans le fait de travailler autour du son, de la musique, c'est comment ça peut créer des images, des imaginaires, comment est-ce que ça peut aussi interroger notre environnement, nos espaces, comment révéler l'invisible.
Et on pourra entendre le marégraphe de Méline dans la tour de l'hôtel de ville du Havre.
Méline Grelier, son œuvre sonore, Un été au Havre, commence le 28 juin. La semaine prochaine, Laetitia.
On ira distribuer du courrier avec Myriam et on rencontrera une greffière à Toulouse.
Et ça s'appelle Regarde la France.
France Inter. Mathilde Munoz. 5-7.
Il est 6h21. Il n'y a jamais eu autant de personnes déplacées de force dans le monde. Plus de 122 millions selon le HCR, l'agence de l'ONU pour les réfugiés, qui publie ce matin son rapport annuel. Et son patron est l'invité du 5-7. Bonjour Philippe Augrandi.
Oui, bonjour.
Vous êtes haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. S'il y a un petit décalage entre nous deux, c'est parce que vous êtes en direct d'Éthiopie. Et c'est justement dans cette région du monde, dans un pays voisin, que l'on trouve le plus de déplacés. C'est le Soudan, à cause de la guerre civile, qui a fait plus de 150 000 morts en 2 ans. Et donc un nombre de déplacés et de réfugiés toujours plus important.
Exactement. Le Soudan est le symbole de cette augmentation constante du nombre de réfugiés et déplacés dans le monde, donc de personnes qui sont contraintes à fuir leur foyer à cause de la guerre, des persécutions et des violences. Au Soudan tout seul, il y a plus de 10 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays et plus de 4 millions de personnes qui ont fui le pays pour chercher abri dans les pays voisins. Donc un symbole d'une crise politique qu'on n'arrive pas à résoudre et qui a un impact dévastateur sur la population civile.
Oui, plus grave crise humanitaire au monde. Ces déplacés et ces réfugiés, dans quelles conditions vivent-ils ? Qui s'occupe d'eux ?
C'est très très difficile pour toute une série de facteurs. Premièrement, surtout à l'intérieur du Soudan, vous comprenez, la guerre est une guerre féroce qui est conduite sans aucun respect ni pour la population civile ni pour les agences humanitaires. Donc l'accès à ces populations est dangereux et difficile dans beaucoup d'endroits. Et deuxièmement, et un peu partout au Soudan, mais aussi dans les pays voisins, et en fait partout dans le monde, nous vivons une crise financière terrible. Le gel des contributions humanitaires des États-Unis, qui a été annoncé annoncé au début de la nouvelle administration et la baisse des contributions dans beaucoup de pays donateurs, l'impact de cette diminution de l'aide commence à se faire sentir, et l'aide qui était déjà plutôt limitée, par exemple pour les réfugiés soudanais dans les pays voisins, devient dramatiquement insuffisante. Et cela provoque a des conséquences immenses sur des populations qui fuient et qui sont déjà dans des conditions physiques et morales terribles.
Mais par exemple, en Éthiopie, où vous vous trouvez justement, Philippe Ograndi, comment ça se passe? Est-ce que le pays a les moyens d'accueillir les Soudanais qui viennent s'y réfugier?
L'Éthiopie est un pays qui, traditionnellement, a reçu beaucoup de réfugiés de plusieurs pays voisins. L'Éthiopie est dans une région très troublée. Donc, vous avez ici des réfugiés qui arrivent du Soudan, du Sud-Soudan, qui est toujours très, très fragile. Même chose pour la Somalie. Donc, c'est un pays qui héberge plus de 1 million de réfugiés, un pays qui est pauvre, qui n'a pas beaucoup de ressources, qui a des politiques d'accueil extrêmement ouvertes, beaucoup plus ouvertes de la plupart des pays, beaucoup plus riches, mais les ressources manquent. On a constaté par exemple que des enfants mal nourris doivent être déchargés des hôpitaux qui les soignent avant qu'ils soient complètement soignés, pour faire la place à des enfants qui sont encore plus mal nourris. C'est un exemple des choix extrêmement difficiles que doivent faire les personnes qui travaillent avec ces personnes en détresse.
Philippe Ograndi, je rappelle que vous êtes haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Le HCR publie donc aujourd'hui son rapport annuel. Rapport dans lequel on voit que derrière le Soudan, il y a l'Afghanistan, dirigé par les talibans, l'Ukraine, pays en guerre. Il y a Gaza aussi dans votre rapport ?
Bien sûr, parce que le HCR ne s'occupe pas des réfugiés palestiniens, c'est l'UNRWA qui a cette responsabilité, mais le rapport est un rapport sur toutes les situations de déplacement et des réfugiés dans le monde. C'est le rapport qu'on publie chaque année avant la Journée mondiale des réfugiés, qui est la semaine prochaine. Donc, les réfugiés palestiniens et la situation dramatique dans laquelle non seulement les réfugiés, mais tous les Palestiniens se trouvent en ce moment, fait l'objet aussi de ce rapport.
Et quand les guerres se terminent, est-ce que ces déplacés rentrent chez eux ?
Un bon exemple de cette situation que vous mentionnez est la Syrie. La guerre n'est pas entièrement finie. Il y a toujours des poches de conflit dans le pays, mais la chute du régime de Bachar al-Assad en décembre a déjà ouvert la porte au retour de au moins une partie des 5 millions de réfugiés syriens qui se trouvent depuis des nombreuses années dans les pays voisins. Donc nous avons 500 000 personnes qui sont rentrées des pays voisins depuis décembre, et 1,5 million des très nombreux déplacés internes qui sont rentrés chez eux. 2 millions de Syriens ont déjà fait ce choix. Le problème, c'est que si la Syrie n'arrive pas à décoller, à reconstruire, à rebâtir son infrastructure, son économie, sa société, ces gens vont quitter de nouveau. Et ça sera encore plus dramatique. Donc il faut les aider.
Et vous parlez quand même de lueur d'espoir à propos de la Syrie dans votre rapport. Merci beaucoup Philippe Ograndi, haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.
Chez GMF, être assurément humain, c'est penser à votre quotidien autant qu'à votre protection. GMF vous offre 2 mois pour la souscription de contrats d'assurance auto, moto et habitation, et ce jusqu'au 30 juin. GMF, assurément humain. Conditions de l'offre sur gmf.fr.
T'avais trop raison. Le cabillaud Picard, poêlé 10 minutes avec un peu d'huile d'olive et du citron. Oh, mais qu'est-ce que c'est bon!
Et en plus, jusqu'à dimanche, les 4 dos de cabillaud sont à 13,99€ au lieu de 19,99€. Car oui, pendant les jours Picard et nous, les produits préférés de nos clients sont à moins 30%. Alors profitez-en. Picard, pour le bon et le meilleur.
560 grammes, soit 24,98 € le kilo. Pêché en Atlantique Nord-Est, valable avec la carte Picard et nous. Modalité sur picard.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Ah ouais, enfin une place.
Ah ça, à mon avis, c'est un peu petit pour toi, ça. Tu sais là, vu le créneau, c'est tout un art. Alors peut-être que moi, à la rigueur...
Papa, parce
que
je suis garé.
Tu es garé.
Eh ouais.
T'es bien le fils de ton père, toi.
Découvrez toute l'agilité de la Toyota Aygo Cross. Disponible à partir de 119 € par mois, entretien inclus. Porte ouverte ce week-end.
Ah, c'est bien beau de se garer, mais se dégarer...
Toyota Aygo Cross Dynamic LLD, 37 mois, 30 000 km. Premier loyer, 3 990 € réservé aux particuliers dans le réseau participant pour toute commande jusqu'au 30 juin. Détails sur toyota.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
6h29.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Bonjour Marie-Pierre Planchon.
Bonjour Mathilde.
Encore des orages dans le Nord-Ouest.
Ah oui, car on a toujours cette goutte froide qui est en train de remonter, qui s'installe sur les îles britanniques et l'Atlantique, donnant donc dès ce matin des orages des Pays de la Loire jusqu'au Cotentin, avec de bonnes rafales de vent, hein, 90 km/h. Puis on surveille quand même, hein, parce que la vigilance est bien jaune foncé, car des orages seront encore très forts. Cet après-midi, ça va quand même se calmer avec quelques ondées de la Bretagne à la Normandie. Un orage possible sur le Massif central cet après-midi, comme sur les Alpes. Et sur toutes les autres régions, ce sera parfois quelques nuages d'altitude qui viendront voiler le soleil, mais rien de grave, voire peut-être une ondée sur les régions du centre et même en Île-de-France.
Et on a encore une petite fraîcheur matinale.
Oui, il ne fait pas plus de 6 degrés sur les Ardennes, 7 en Moselle, contraste avec les 22 dans l'Aude et dans l'Hérault. Et cet après-midi, comptez entre 21 et 26 en Bretagne et en bord de Manche, 29 à 32 en général sur l'ouest du pays, 32 à 34 de la Champagne au centre-est à la Provence.
Marie-Pierre Planchon, France Inter, 6h30. Le journal, Florence Paracolos, bonjour.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous. À la une ce matin, les jeunes et l'IA, 40% des 18-25 ans l'utilisent tous les jours pour tout et n'importe quoi, on va l'entendre. Alors que le monde de la tech est réuni à Paris pour le plus grand salon européen du genre. Une minute de silence à midi dans tous les établissements scolaires de France. Deux jours après le meurtre de Mélanie, surveillante du collège de Nogent par un ado de 14 ans qui n'a montré aucun regret en garde à vue. La une, c'est aussi le retour de la consigne à grande échelle, expérimentée dans 4 régions pour le verre. Explication à suivre. Vers un accord commercial entre la Chine et les États-Unis, la question des terres rares est au centre du deal qui reste à valider. Et puis l'histoire de ce jeune basketteur alsacien prodigieux en NBA à la rentrée. Il a fini par choisir le basket il y a 4 ans seulement pour une histoire de pointure de chaussures. On va l'entendre. Quand ChatGPT répond à toutes vos demandes, c'est le principe de cette intelligence artificielle générative dont les jeunes se sont emparés, plus nombreux chaque année. 80% des 18-25 ans l'utilisent une fois par semaine. Chiffre d'une étude de l'agence Even que vous nous révélez en avant-première. Stéphane Jourdain, certains ne peuvent littéralement plus s'en passer.
Goji, Segui et Havana sont en dernière année de BTS et elles ne s'en cachent pas. Elles sont accros à ChatGPT.
Ouais, j'ai utilisé hier, moi, pour faire refonctionner un jeu dans ma Nintendo Switch. Non, moi, c'était pour trouver un nouveau travail pour ma mère. C'est un peu gênant, mais des fois, je lui demande de me réconforter sentimentalement. Genre, ouais, complimente-moi, fais ci, fais ça.
Moi, je pourrais pas faire sans, parce que maintenant, je l'utilise tout le temps, en fait. Donc, c'est mort.
Comme ces 3 étudiantes, les jeunes sont de plus en plus dépendants aux IA génératives. 42% les utilisent tous les jours, c'est 2 fois plus qu'il y a un an. Et 1 sur 5 échangent régulièrement par la voix avec une IA. Ces jeunes s'en servent principalement pour rédiger des textes, chercher des infos ou même résoudre un problème. Ce qui doit nous alerter, selon Yann Lequin, l'un des pères de l'IA moderne, croisé à Vivatech.
Il faut quand même se méfier, c'est-à-dire qu'on ne parle pas à un humain, on parle à une machine qui est une espèce de collection statistique un peu de tout ce que les humains répondraient dans ce genre de situation, et c'est pas toujours complètement approprié. Donc. Mais ce qu'on constate avec toutes les nouvelles technologies, c'est que les jeunes apprennent beaucoup plus vite que leurs aînés à utiliser une technologie à bon escient et à connaître ses limitations.
Des jeunes qui se sentent acculés, la moitié d'entre eux estiment qu'il faut utiliser l'IA au risque d'être désavantagé par rapport aux autres.
Stéphane Jourdain.
Une minute de silence à midi dans tous les établissements scolaires.
Le recueillement de l'éducation après le meurtre d'une surveillante mardi matin à Nogent, poignardée par un ado de 14 ans, sans regret ni compassion en garde à vue. Il dit qu'il a voulu s'attaquer à une surveillante, n'importe laquelle. Pas de signe de trouble mental, selon le procureur de Chaumont qui a donné une conférence de presse hier soir, une expertise psychiatrique devrait être plus précise. Dans la foulée du drame, le gouvernement a annoncé l'interdiction de la vente des couteaux aux mineurs. François Bayrou s'est aussi prononcé pour tester les portiques de sécurité dans certains établissements, ce qui ne répond pas du tout aux besoins, estime Isabelle Béguin-Mansuy, principale d'un collège de Metz et secrétaire académique du principal syndicat des chefs d'établissement.
Pour résoudre les problèmes de santé mentale, il faut bien des personnes humaines et pas des portiques. Donc on a à la fois une problématique de personnel médico-sociaux dans les établissements. Dans la plupart des établissements, les infirmiers scolaires ne sont présents que 1 ou 2 jours par semaine, mais aussi, et nous l'avons dit à plusieurs reprises, de délais de prise en charge des élèves que nous repérons et que nous adressons à des professionnels de santé à l'extérieur des établissements. Ces délais, ils peuvent varier de 6 mois à 1 an, ce qui est extrêmement long pour un élève qui va mal.
Alors, le plan santé mentale annoncé par le ministre de la Santé hier répondra-t-il aux besoins? Il est notamment question de former 2 personnes dans chaque établissement à la détection des troubles psychiques et 100% du personnel de santé scolaire, sachant qu'il en manque cruellement, comme vient de le dire la principale.
Et ce ministre, Yannick Noder, est ce matin sur France Inter, l'invité à 7h50 de Sonia De Villers. C'est Yannick Noder, donc.
Voilà, la consommation de drogue et d'alcool au travail a plus que doublé en 8 ans, révélation d'une étude Itilo, sur la foi de 110 000 tests de dépistage, 5,3% des travailleurs ont été testés positifs à l'alcool ou aux stupéfiants cette année. La consommation qui a le plus explosé, c'est la cocaïne. Plus de 13 fois plus de tests positifs cette année qu'en 2017. Le retour de la consigne à grande échelle. Et oui, la bouteille de jus de fruits ou de lait qu'on rapporte au magasin une fois vidée pour qu'elle soit lavée et réutilisée. 4 régions, les Hauts-de-France, la Normandie, les Pays de la Loire et la Bretagne vont tester pendant 1 an et demi à partir d'aujourd'hui. 55 millions d'emballages standardisés en verre doivent être mis dans les rayons des supermarchés. Le lancement est progressif. Le temps pour nous, consommateurs, de reprendre ce vieux réflexe. Rémi Brancato, un visuel facile à identifier va nous permettre de repérer quels sont les contenants consignables.
L'étiquette violette et orangée sera d'abord collée sur des bouteilles de jus, de soupe dans les rayons de vos supermarchés avec ce message: rapportez-moi pour réemploi, il vous en coûtera 20 centimes rendu au retour du contenant dans des bornes automatiques. Pas besoin de ramener la bouteille là où vous l'avez achetée, c'est la grande nouveauté, mais dans l'un des 350 magasins participants d'ici l'été. 750 à l'automne, la bouteille est standardisée, les bocaux attendus début 2026 aussi. Une fois nettoyée, la bière peut remplacer la soupe et vice-versa. Pour l'instant, 8 enseignes participent, Carrefour, Auchan, Intermarché notamment. Objectif, 55 millions d'emballages sur le marché dans ces 4 régions. L'éco-organisme Citeo espère en faire circuler 2 milliards à terme partout en France. Mais il faudra habituer les consommateurs dans le groupe U qui participe. Quand on teste la consigne dans quelques magasins, moins de 4 emballages sur 10 sont rapportés. Citeo espère 50% de retour pour ce premier test à grande échelle.
Voilà, et pour trouver la liste des magasins et des lieux où rapporter ces emballages consignés, allez donc sur reflexegagnantreemploi.fr. Quand l'Iran se fait menaçant en pleine négociation sur le nucléaire avec les États-Unis, nouvelle réunion en fin de semaine, Téhéran avertit que les bases américaines seront des cibles en cas de conflit. Du coup, Donald Trump annonce le déplacement d'une partie du personnel américain au Moyen-Orient et se dit moins confiant de parvenir à un accord. A l'inverse, les États-Unis et la Chine sont peut-être en train d'enterrer la hache de guerre commerciale. Donald Trump, qui peut toujours changer d'avis, a annoncé hier que les deux pays avaient trouvé un accord cadre après 2 jours de négociations à Londres. Bonjour Sébastien Paour.
Bonjour à tous.
À Washington pour France Inter, on a peu de détails, mais qu'ont négocié et obtenu les États-Unis, Sébastien ?
Alors, Washington a essentiellement obtenu que la Chine accepte de nouveau d'exporter ses terres rares et ses aimants précieux que les fabricants américains utilisent notamment pour les moteurs des véhicules électriques. Les restrictions chinoises avaient entraîné la fermeture temporaire d'une usine Ford et menaçaient d'autres entreprises de fermeture. Les spécialistes estiment que la Chine a 30 ans d'avance dans la production de terres rares. Elle sait les extraire, les traiter, les raffiner. Là où l'industrie américaine n'a qu'une seule mine de ce type, elle est en Californie, et même si elle fait des progrès, eh bien elle est dépendante, l'Amérique, de Pékin, et il lui faudrait au moins 5 ans pour inverser cette tendance. Donc, la Maison-Blanche a fait des concessions pour récupérer des terres rares chinoises. Elle a notamment accepté d'alléger les contrôles sur ses propres exportations vers la Chine, notamment de certaines technologies sensibles comme les pièces d'avion ou les logiciels de conception de semi-conducteurs.
Sébastien Paour, correspondant France Inter aux États-Unis, au Canada. Les feux de forêt se rapprochent de Vancouver. Le pays connaît une saison précoce et extrême de feux. 3,5 millions d'hectares sont déjà partis en fumée, soit un peu plus que la superficie de la Belgique. Enfin, on pourrait parler du fabuleux destin de Johan Berringer, ce basketteur alsacien de 18 ans et 2m10 va bientôt s'envoler pour les parquets de la NBA, le prestigieux championnat nord-américain, avec de bonnes chances d'être sélectionné entre la 10e et la 15e place lors de la prochaine draft au mois de juin. Ça n'est pas un enfant de la balle et du panier. Il ne joue au basket que depuis 4 ans. Luc Dreyfus, sa progression a donc été fulgurante.
Johan Berringer était passionné par le foot, mais il a dû arrêter de jouer à l'âge de 14 ans.
Les derniers crampons que j'avais trouvés à ma taille, c'était du 51. Ma mère avait dû les commander en Espagne. Mais à partir de 51, il n'y avait plus de crampons en ma taille.
Son destin bascule alors un dimanche à la messe.
Un joueur qui jouait avant à la SIG était à l'église ce jour-là et il m'a demandé si je faisais du basket. Et dans ma vie, ça a marqué un tournant.
Johan Berringer débute le basket en septembre 2021 à Strasbourg-Saint-Joseph. Lilian Oumiloud a été le premier entraîneur à façonner le joyau.
J'ai travaillé avec lui comme si c'était un poussin qui commençait le basket, donc dextérité, double pas, différents types de dribbles, parce qu'il avait rien du tout. Et des fois, il travaillait même avec les poussins en même temps qui faisaient 1m10, puis il y a Johan qui faisait 2m5 à côté.
Johan Berringer poursuit sa folle ascension à la SIG, puis à Ljubljana, son agent Valentin Leclésio.
C'est un garçon qui est extrêmement mobile par rapport à sa taille. C'est quelqu'un qui est extrêmement humble, travaille. C'est une éponge, on n'a pas besoin de lui répéter trois fois la même consigne pour qu'il l'applique.
En moins de 4 ans, Johan Berringer va donc passer des terrains de foot strasbourgeois au parquet de la NBA.
Si vous me demandiez ça il y a 2-3 ans, c'était vraiment une utopie. Mais maintenant, plus qu'un rêve, c'est un objectif. J'ai juste hâte de voir ce que ça va donner et je bosse tous les jours pour devenir la meilleure version de moi-même.
Selon les prévisions, Johan Berringer devrait être choisi entre la 10e et la 15e place lors de la draft NBA.
Voilà, c'est complètement dingue, surtout à cause d'une histoire de taille de crampon. On remercie Luc Dreyfus. Ici Alsace.
Et moi je vous remercie pour ce journal, Florence Paracuelos.
On en parle.
Et si on préférait l'électricité? On en parle avec Géraldine Paloc chez EDF. Préférer l'électricité, pourquoi?
Aujourd'hui, on consomme surtout du gaz et du pétrole, qui émettent beaucoup de CO2, qui sont importés et pèsent lourdement sur la balance commerciale française. L'électricité, elle est produite en France et elle est légère en CO2. Et donc, ça permet de réduire notre empreinte carbone, tout en renforçant notre souveraineté.
Merci Géraldine.
Bilan 2024 RTE. Plus d'infos sur edf.fr/climat. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
C'est les ventes privées chez Optical Center. Bénéficiez de moins 30 à moins 50% sur les montures et verres des plus grandes marques, sur les dernières collections de solaires et même sur les appareils auditifs. Jusqu'à moins 50% chez Optical Center, c'est pendant les ventes privées jusqu'au 24 juin. Dispositifs médicaux, non cumulables avec d'autres offres en cours, conditions en magasin.
Oh là, j'en peux plus de ces bouchons là.
Ah ouais, c'est marrant ça, moi je trouve ça très bien moi ça.
Comment ça tu trouves ça très bien?
Ben, pense un peu aux autres fistons qui aient le temps d'admirer ma nouvelle Aygo Cross avec son toit ouvrant et ses jantes 18 pouces. Eh oui.
Venez découvrir la Toyota Aygo Cross, disponible à partir de 119€ par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end.
Oh, j'avance, oh là là.
Toyota Aygo Cross Dynamic LLD, 37 mois 30 000 km. Premier loyer 3 990€, réservé aux particuliers dans le réseau participant pour toute commande jusqu'au 30 juin. Détails sur toyota.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
6h42.
France Inter. Le 5-7.
Au rage, au désespoir, le 5-7 touche à sa fin. Heureusement, il reste le carrefour. Bah oui, je cite Corneille, c'est l'anniversaire de sa naissance. Bonjour, cher chroniqueur.
Oh là là, la classe. Bonjour, Mathilde.
Bon anniversaire, Corneille.
Bon anniversaire. Bah ouais. L'économie, Béatrice Mathieu.
Eh bien, à part Daniel, qui est déjà monté à bord de la Flèche Rouge?
Moi. Ouais.
Ah, oui. Bon, alors, les deux déjà, quand même. Pour tous les autres, eh bien, vous pourrez vous rattraper dès ce dimanche si vous allez en train à Marseille.
Ah, c'est un train. Mais oui, c'est un train. Oui. Trenitalia. Regarde le monde, Marie Boëton.
Direction le Sénégal, qui se prive d'une partie de sa pêche alors même qu'il traverse une grave crise alimentaire.
On se décarbone, Raphaël Gerson.
Ce matin, même pas peur, on décarbone les 24 heures du Mans.
Carrément.
Gros dossier. Hein. Ouais. Capture d'écran, Eva Rock.
Dans la famille Miyazaki, après le père, je demande le fils pour un film d'animation tout aussi poétique.
Mmh. Daniel Morin.
Hier soir, on m'a emmené manger dans un resto végétarien. Ben, c'était bon, mais quand je suis rentré chez moi, ben, j'ai dû redîner.
Voilà.
Bah oui, c'est comme ça.
L'économie, donc, avec Béatrice Mathieu. Petite révolution dans le transport ferroviaire, la fin du monopole de la SNCF sur une ligne très fréquentée, Paris-Marseille.
Alors il est tout rouge, avec un nez un petit peu pointu. On l'a surnommé la flèche rouge, la Freccia Rossa. Je vous parle du train à grande vitesse de la compagnie italienne Trenitalia. Les habitués du Paris-Lyon le connaissent déjà, puisqu'il roule depuis décembre 2021 entre les deux villes. Dimanche prochain, la petite flèche rouge va débouler aussi sur le Paris-Marseille. Une révolution qui s'inscrit dans le cadre de l'ouverture à la concurrence des lignes à grande vitesse.
Et il y aura beaucoup de trains ?
Alors l'offre de Trenitalia est encore modeste, 4 allers-retours par jour seulement, de le matin et de l'après-midi, quand la SNCF en fait quotidiennement une vingtaine. Surtout, il met un peu plus de temps, près de 20 minutes en plus en moyenne pour relier la gare de Lyon à Paris, à la gare Saint-Charles, à Marseille. Mais s'il est plus lent, il est surtout beaucoup moins cher. C'est la méthode Trenitalia. Pour une plage horaire identique et un niveau de confort équivalent, la flèche rouge est entre 20 à 25% moins cher que le TGV français, d'après une étude de l'association UFC Que Choisir.
Et comment réagit la SNCF ?
Eh bien, c'est un peu la soupe à la grimace, hein, car le développement de la concurrence chamboule tout son équilibre économique. Pour résumer, les lignes rentables renflouent les lignes déficitaires. Sur l'ensemble du réseau à grande vitesse géré par la SNCF, un tiers des lignes sont bénéficiaires, un tiers perd de l'argent et un tiers sont tout juste à l'équilibre. Or, plus de concurrence, eh bien, c'est moins de marge à la fin pour la compagnie française qui devra un peu ajuster ses prix si elle veut conserver ses clients. Et puis, il faut ajouter aussi les dessertes quasi imposées à la SNCF, mais pas à ses concurrents dans le cadre de l'aménagement du territoire. Plus d'arrêts, eh bien, c'est plus de coûts. Par exemple, sur le Paris-Lyon, la SNCF fait 7 stops par jour au Creusot, là où Trenitalia n'en fait aucun. Alors l'équation va encore se compliquer dans les années qui viennent, car d'autres compagnies vont arriver dans l'ouest de la France notamment. Un casse-tête pour le futur patron de la SNCF dont on attend la nomination d'ici la fin de l'année, d'ici la fin de l'été, pardon. On parle d'un certain Jean Castex.
L'ancien Premier ministre qui dirige aujourd'hui la RATP. Merci beaucoup Béatrice Mathieu de L'Express. Marie Boëton pour Regarde le Monde. Au Sénégal, tout le monde ne mange pas à sa faim et pourtant, le pays exporte une partie croissante de sa pêche.
Oui Mathilde, les poissons pêchés le long des côtes sénégalaises sont de plus en plus souvent destinés à l'export. C'est le cas des sardinelles, ces petites sardines qui font office d'alimentation de base dans le pays. Concrètement, elles sont transformées en farine puis vendues à la Turquie qui s'en sert de nourriture pour ses poissons d'élevage, notamment pour les dorades, qui sont ensuite destinées au marché européen. En clair, ces sardinelles sont détournées du marché sénégalais pour alimenter l'aquaculture turque et répondre à nos besoins.
Alors même que le Sénégal fait face à une crise alimentaire.
En effet, près de 900 000 Sénégalais font face à une insécurité alimentaire chronique en cause la baisse des rendements agricoles du fait des sécheresses à répétition. Ainsi, les productions de riz, de mil, de sorgho, de maïs ont toutes chuté, ce qui a mécaniquement augmenté les prix. Les produits de la mer sont eux aussi en tension. La surexploitation des fonds marins s'accompagne, comme ailleurs, d'une raréfaction des poissons qui sont la principale source de protéines dans le pays. Dans ce contexte, réservé à l'export, les sardinelles revient de fait à accroître encore l'insécurité alimentaire. On aboutit donc à cette situation paradoxale. D'un côté, des filets de pêche remplis pour le reste du monde. De l'autre, des assiettes vides pour les Sénégalais.
Comment réagissent les autorités ?
Mollement, Mathilde. Dakar a récemment annoncé vouloir, je cite, « mieux encadrer l'activité des usines de farine de poisson pour garantir leur conformité aux normes environnementales et sociales », ce qui, de fait, ne change absolument rien au problème. Le Sénégal est en réalité l'un des principaux fournisseurs de farine de poisson d'Afrique de l'Ouest et il entend bien le rester. Le pouvoir en place a les yeux rivés sur les exportations, reléguant loin derrière la question pourtant cruciale de la souveraineté alimentaire. Alors certaines ONG comme Greenpeace, Food Rice ou Changing Markets dénoncent le fait que les ressources halieutiques du pays se trouvent ainsi sacrifiées au profit des marchés occidentaux. Elles demandent aux acteurs concernés, notamment aux fermes d'élevage, de ne plus acheter de farine de poisson provenant de pays en proie à l'insécurité alimentaire. À juste titre, comment en effet tolérer qu'un pays nourrisse le monde en affamant les siens ?
Marie Boëton regarde le monde du lundi au jeudi dans le 5-7 et vous êtes journaliste à La Croix. On se décarbone, Raphaël Gerson, vous êtes donc joueur ce matin. Les 24 heures du Mans se déroulent ce week-end et vous avez décidé de les décarboner.
Et je sais ce que vous vous dites, ça y est, c'est la fin de la saison, Mister Carbone a pété un boulon. Alors je peux vous comprendre, 62 voitures surpuissantes qui tournent à grande vitesse sur un circuit pendant 24 heures, on n'est pas vraiment sur de la décarbonation. décarbonation. Et l'empreinte de l'événement s'en ressent. Plus de 35 000 tonnes de CO2 en un week-end. C'est l'équivalent des émissions annuelles d'une ville de 5 000 habitants.
Est-ce que c'est une préoccupation pour les organisateurs de la course?
Oui, ils ont pour objectif de réduire leurs émissions de 30% d'ici 2030. Et ça se traduit concrètement sur la piste. Les voitures participantes utilise aujourd'hui un carburant 100% renouvelable issu de résidus viticoles français. Ce n'est pas parfait, mais ça permet de réduire les émissions d'environ 65%. Et la prochaine étape est de les faire rouler à l'hydrogène. Elles n'émettront alors que de la vapeur d'eau.
Mais ça ne va pas suffire pour décarboner entièrement les 24 heures du Mans.
Non, car contrairement à ce qu'on pourrait penser, les écuries et la course en elles-mêmes ne représentent que le quart de l'empreinte carbone de l'événement, alors que le déplacement et les repas de quelques 350 000 spectateurs encore attendus cette année valent pour 2/3 des émissions. Pour décarboner la restauration, les organisateurs ont choisi de privilégier le circuit court. 90% des approvisionnements se font au niveau départemental. Et côté transport, un ticket vert a été mis en place. Il offre un tarif réduit à l'entrée pour toutes les personnes qui viennent en covoiturage, en train ou en voiture électrique. Il s'en est vendu plus de 10 000 l'année dernière.
Ça reste peu hein, sur 350 000 spectateurs.
C'est vrai, et vous mettez le doigt sur un point qui n'est pas assez pris en compte dans les bilans carbone et qui est pourtant crucial. L'influence d'un événement sur le comportement des visiteurs, que ce soit avant, pendant ou après. Car si les 24 heures du Mans donnent envie aux spectateurs qui en ont les moyens de s'offrir un bolide pour un usage quotidien, on aura du mal à atteindre la neutralité carbone. Mais si cette course permet de sanctuariser un plaisir carboné et de sensibiliser à une mobilité durable le reste de l'année, il est permis d'espérer.
Raphaël Gerson, on se décarbone.
Capture d'écran avec la compagnie des déboucheurs. Entretien, débouchage et intervention sur tout type de canalisation. La compagnie des déboucheurs, c'est plus votre problème, c'est notre métier.
Capture d'écran avec Eva Rock qui choisit le programme télé. Et là, vous prenez un peu d'avance, c'est pour samedi soir.
Se caler dans un canapé, avec ou sans enfant, se laisser porter par la magie d'un film des studios Ghibli, se laisser transporter dans le Japon des années 60 au cœur d'une maison surplombant la mer. Ici, à la Villa des Coquelicots, vivent Umi avec sa grand-mère, sa petite sœur, son petit frère et quelques pensionnaires. Et en l'absence de sa mère enseignante à l'étranger, l'adolescente jongle entre ses cours au lycée, l'entretien de la maison et la confection des repas, de quoi inquiéter sa grand-mère.
Je m'inquiète, tu sais.
M'occuper de tous ces gens m'empêche d'être triste et de me sentir seule.
Je m'en doute. Mais ça me fait toujours beaucoup de peine de te voir chaque matin hisser les drapeaux sur le mât. J'imagine combien ton père doit te manquer cruellement, encore aujourd'hui. J'espère qu'un jour prochain, tu feras une belle rencontre et que tu n'auras plus jamais à hisser ces drapeaux. C'est quoi cette histoire de drapeaux ?
En fait, tous les matins, Umi lève des drapeaux sur le mât installé dans le jardin, un geste en hommage à son père. Comme elle le raconte à Sean, un lycéen dont le charme ne la laisse pas indifférente, une attraction réciproque par ailleurs.
Je les hisse depuis toute petite. Je fais ça tous les jours. Au début, c'était pour guider mon père quand son bateau se rapprochait des côtes, pour lui éviter de se perdre. Je les accrochais sur la corde à linge, jusqu'à ce qu'il entre dans la rade et arrive à quai. Je n'ai jamais manqué de le faire, pas un seul jour. Et puis, pendant la guerre de Corée, son navire a coulé, mon père n'est jamais revenu à la maison. Et moi, je n'ai jamais cessé de hisser les drapeaux.
L'amitié et la naissance d'un sentiment amoureux entre les deux ados constituent la première histoire de ce film d'animation réalisé par Gorō Miyazaki, le fils d'Hayao Miyazaki, un des fondateurs des studios Ghibli. Ce condensé de poésie aux couleurs pastel évoque également l'histoire du Japon et de son rapport au passé. La préservation de la mémoire collective s'impose comme le deuxième sujet du film.
C'est-à-dire ?
En fait, au sein du lycée se trouve ce qu'on appelle le quartier latin. C'est un vieux bâtiment traditionnel dans lequel se déroulent les activités extrascolaires des garçons. Or, la direction a choisi de détruire la bâtisse pour en construire une plus moderne, une décision rejetée par quelques élèves, dont Sean.
En détruisant ce qui est vieux, vous détruisez aussi la mémoire de notre passé, l'héritage de nos ancêtres. Vous n'avez donc aucun respect envers ceux qui ont vécu et qui sont morts avant nous. Il n'y a pas d'avenir possible pour celui qui ne voit rien d'autre que l'avenir et ferme les yeux sur le passé.
Ne pas oublier l'histoire de son pays, ni l'histoire de sa famille, ne pas oublier ses proches, ne pas oublier non plus l'insouciance de l'enfance. C'est tout cela, la colline aux coquelicots, et c'est aussi une reproduction minutieuse du Japon des années 60, avec des rues bouillonnantes, les étals de poissons et de viande, les scènes de cuisine au cours desquelles Umi prépare un riz, une omelette et quelques légumes. Est-ce que j'ai eu faim en regardant ce film d'animation ? La réponse est contenue dans la question.
Voilà. Est-ce que j'ai envie de le voir ? Pareil, la réponse est dans la question.
En mangeant.
Le film d'animation La Colline aux Coquelicots est diffusé sur France 4. Désormais, c'est la chaîne 4, hein, numéro 4.
Exactement.
Et c'est samedi à 21h.
Elle nous est tout le temps répétée, ça devenait gênant pour elle et pour nous.
Mathilde nous parle du bilan auditif de sa maman chez Audica.
Elle osait même plus dire qu'elle avait pas compris. Et petit à petit, elle se coupait de nous. Donc je lui ai pris rendez-vous pour ce bilan auditif chez Audica qu'on m'avait recommandé. Ça a été un moment formidable pour elle et pour nous, ça a tout changé en fait.
Comme Mathilde, prenez rendez-vous pour vous ou pour un proche avec un expert Audica. Il réalisera un bilan auditif complet et gratuit. Audica, expert et à votre écoute. Marque préférée des Français. Étude OpinionWay décembre 2024, bilan non médical.
Eh hey frérot, mais merci de m'avoir fait découvrir les mini cheeseburgers Picard. Hein. Pour l'apéro, je te confirme, c'est une dinguerie. Hier soir, tout le monde a kiffé. Prochaine fois, je t'invite.
Et en plus, jusqu'à dimanche, nos 10 mini cheeseburgers sont à 4,89€ au lieu de 6,99€. Car oui, pendant les jours Picard et nous, les produits préférés de nos clients sont à moins 30%. Alors profitez-en. Picard, pour le bon et le meilleur. 165 grammes, soit 29,63€ le kilo. Valable avec la carte Picard et nous, modalité sur picard.fr.
Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
16 millions, c'est l'équivalent de la population de Paris, Bordeaux et Lyon réunis. C'est aussi le nombre de personnes dans le monde qui ont choisi Renault Clio depuis 1990. Et ce nombre continue d'augmenter, puisque Clio est la voiture la plus vendue en France en 2024. Renault Clio Génération est en édition limitée dès 16 900€. Portes ouvertes du 12 au 16 juin.
Source Renault, immatriculation mondiale de 1990 à 2024. Source 3A Data, janvier 2025. Clio Génération SCE, 65 heures options. Offre à particulier du 1er au 30 juin selon stock disponible. Voir Renault.fr. Pensez à covoiturer.
France Inter, partenaire des Francopholies de La Rochelle. Plus de 80 concerts et rencontres musicales du 9 au 14 juillet 2025 avec Clara Luciani, R, Lamomali, SDM, IAM, Philippe Catherine, Solane, Cassius, Dali et bien d'autres. Les Francopholies de La Rochelle. Un événement France Télévisions et France Inter.
Sans eux, le 5-7 n'existerait pas. Je parle de ceux que vous n'entendez pas, mais qui travaillent avec moi tous les jours. Tiffany Battistel à la réalisation, Elisa Mchin à la préparation et à la coordination, Nasser Madji à la rédaction en chef. Pour les programmateurs des invités, il y a Grégoire Nicolet, Aurélien Sica, Romain Bonifaci, Joachim Taïeb, Alexandre Gilardi et Anne-Laure Sugier. Et je n'oublie pas notre DJ pour la programmation musicale, Thierry Dupin. Merci à tous.
La météo avec TGV Inouï. Trouvez votre coin de ciel bleu dans une de nos 200 destinations en France et vers l'Europe.
Marie-Pierre Planchon, les orages ne sont pas encore terminés.
Oui Mathilde, même si la vigilance orange est levée, elle reste encore jaune bien foncée, on va dire, car cette goutte froide qui est remontée jusque les îles britanniques provoque encore ces orages costauds accompagnés de rafales de vent encore jusqu'à 90 km/h de la Bretagne jusqu'à la Normandie. Sur le reste du pays, c'est calme avec quelques grisailles qui traînent sur l'Aquitaine et le golfe du Lion. Partout ailleurs, c'est un temps ensoleillé avec des valeurs vraiment qui restent contrastées malgré une hausse générale. Pas plus de 6 à Charleville-Mézières, 7 à Porcelette en Moselle, alors que vous avez 22 dans l'Aude à Port-la-Nouvelle. Le soleil s'est levé avec 17 dans la capitale, 16 à Brest et Ajaccio, 13 à Strasbourg et Lille et 20 à Guéret.
Et l'après-midi sera plus calme dans le nord-ouest.
Oui, le ciel sera changeant sur les départements côtiers de la Manche à la Bretagne, partagé entre éclaircies, passages nuageux, porteur de rares ondées sur le reste du pays, excepté quelques grisailles tenaces en Roussillon, c'est estival. A encore très chaud en fin de journée sur le Massif central et sur les Alpes jusqu'au Benelux. Qu'en passant par l'Île-de-France, on risque une averse ou un petit orage. Ces ondées peuvent évoluer jusqu'à l'orage, donc, mais le risque reste isolé. A noter un vent de sud-est qui souffle du golfe du Lion, porte de Toulouse, et des températures en hausse à l'est, mais en chute à l'ouest. Au minimum 20 à Brest, mais 34 à Grenoble.
Marie-Pierre Planchon, merci beaucoup. C'est à vous, Daniel Morin.
Hier, les amis, je vous ai parlé de John Wayne, mort un 11 juin. Bien, un autre héros est également mort un 11 juin, c'était Alexandre le Grand. Du coup, je me suis regardé un petit doc sur le gars. Un génie de la guerre. Alexandre le Grand, il a envahi l'Empire perse avec une armée 10 fois moins nombreuse que Darius, son ennemi. Bref, une légende, le Alex. Il était prince de Macédoine. Alexandre le Grand, qui possédait le plus grand empire, qui était considéré comme un demi-dieu, venait de Macédoine. Et comment plus tard, on rend hommage à la terre natale de ce héros, avec la Macédoine, une salade immonde. La Macédoine, c'est carottes, petits pois, haricots verts, pommes de terre, œufs et maillots. L'enfer. Les gens qui servent de la Macédoine à leurs enfants, c'est qu'ils les aiment pas. Tu sers de la Macédoine à un gosse régulièrement, plus tard il devient psychopathe. Je pense que Madame Hitler servait de la Macédoine à son fils. Adolf Adam Schnell j'ai préparé une grosse macédoine. Miam, miam, tu vas te régaler, mon éclair cochon. Ouais, on connaît la suite, on connaît la suite. La Macédoine hier, terre qui a donné au monde Alexandre le Grand, aujourd'hui salade dégueu, cruelle destinée. Sinon aujourd'hui, grosse actu musicale, avec pour commencer cette triste nouvelle, Brian Wilson, le cofondateur des Beach Boys, est mort, sa famille l'a annoncé, il avait 82 ans. Ah, les Beach Boys quoi! Des tubes à foison que tout le monde aime. Jamais j'ai entendu quelqu'un dire « Ah, c'est l'horreur, les Beach Boys, c'est vraiment trop de la merde !» Ah, je pense que les gens qui n'aiment pas les Beach Boys sont des gens qu'on est obligés à manger de la macédoine quand ils étaient petits. Sinon, c'est pas possible autrement, hein. Tu peux pas rester insensible à une chanson des Beach Boys. Moi, quand j'écoute les Beach Boys, là, par exemple, bah ça y est, j'ai les cheveux qui poussent, je fais du surf, je conduis un combi Volkswagen, je prends de la drogue, je connais pas le nom des gens avec qui je fais l'amour. Oh, je suis bien, quoi! Et puis pour les puristes, les Beach Boys, Kokomo, la chanson de Cocktail, fuck the fucking fuck, Cocktail avec Tom Cruise. Oh, dans Cocktail, Tom Cruise, c'est la créature la plus sexy du monde. Quand je regarde Cocktail, mon hétérosexualité part en cacahuète. J'ai envie d'avoir des gosses avec Maverick. Tom Cruise, il a jamais, jamais, jamais mangé une cuillerée de Macédoine. Jamais. Et ça, c'est sûr à 100%. Ah, ça m'a rendu triste, la mort de Brian Wilson. Bon, allez, musique toujours, mais autre ambiance. Ouais, c'est pas les Beach Boys. Non, Dorothée qui va remonter sur scène en solo. Ce sera le 4 avril au Palais des Congrès. Attention, ouverture des réservations dans 3h et 30 secondes. Dorothée, c'est quand même 52 Zénith, 59 Bercy, 17 albums, 20 millions de disques vendus. Wow. Oh, grande carrière, star incontournable des années 80 et 90. Sera-t-elle accompagnée par son musicien fétiche, Bernard Minet? On croise les doigts. Mais c'est dingue ça. Je parle de Bernard Minet. Bernard Minet, c'est le gars qui a chanté un tube à la gloire de qui vous savez? Bah ouais, notre voisin d'à côté, le voisin de l'espace. Nicoman de Cyborg.
J'avais oublié, ouais, c'est vrai.
Et pourtant, c'est vrai. Le